le Seigneur soit béni. On pourrait, c'est vrai, continuer de le louer encore. C'est comme un fleuve qui est ouvert, là, et puis ça coule, n'est-ce pas vrai? Et dès qu'on entre dans ce fleuve, on désire être emporté. C'est merveilleux. C'est une source jaillissante qui est là et qui nous rafraîchit, qui nous fait du bien, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Mon message sera très court. C'est quelques paroles un peu de conclusion afin de terminer pas trop tard. À 3h30, normalement, il faut que ce soit terminé. On priera aussi donc pour les requêtes ici. Et s'il y a quelques personnes qui désirent la prière, on priera encore pour les quelques personnes qui le désirent. Alors, ce que je voulais dire, c'est ce matin déjà, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. On a parlé du feu et le feu aussi en relation avec le trône de Dieu. Mais j'aimerais donner quelques mots sur le feu de l'Esprit. Comment garder ce feu de l'Esprit? Amen. Un feu s'allume en nous, mais il faut savoir le garder aussi. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il est dit, 1 Thessaloniciens 5, 20, il est dit, « N'éteignez pas l'Esprit. » Vous voyez, le feu qui est en nous, on peut l'éteindre. Et j'ai noté ici, « et n'éteignez pas l'Esprit », dans le mot grec pour « éteindre » veut dire « prendre quelque chose de chauffé à blanc, comme l'acier, » et le plonger dans de l'eau froide. L'acier alors devient dur et froid lorsqu'il n'est pas chauffé à blanc. Voyez-vous? C'est quand Dieu nous a remplis, nous a réchauffés, et puis que d'un seul coup, on entre en contact avec quelque chose qui nous refroidit. Et une fois refroidi, on devient dur comme cet acier. Et la volonté de Dieu, c'est que nous restions tout le temps chauffés à blanc, c'est-à-dire fervents. Soyez fervents d'esprit, n'est-ce pas vrai? Alors, il y a certaines choses qu'il faut éviter, ces douches froides qu'il faut éviter pour que le Saint-Esprit continue d'agir et d'être renouvelé en nous. Alors, 5 exemples tout simples. En parlant du feu, à quoi sert le feu? Si vous réfléchissez quelques instants, vous allez découvrir vous-même plusieurs propriétés du feu. J'en donne 5, on pourrait en donner beaucoup plus. Mais quelques simples idées pour nous montrer comment garder ce feu. Parce que ce n'est pas seulement en priant, « Seigneur, garde-moi, je veux que tu gardes le feu en moi. » Vous avez votre part et on a notre part à faire, n'est-ce pas vrai? Si on prie seulement « garde-moi dans le feu », enfin, « garde que le feu soit toujours en moi », c'est pas suffisant. On a quelque chose à faire. Alors, la première propriété du feu, le feu consume, détruit, n'est-ce pas vrai? Quand on veut détruire, consumer certains endroits, quand on met le feu, et d'ailleurs, il n'y a même pas, quand il y a le feu dans une maison, ça détruit tout. Et ça va jusque dans les recoins, le feu, c'est terrible, ça monte partout, ça... Le feu consume, détruit. C'est là une propriété de l'Esprit Saint qui veut consumer en nous plusieurs choses selon l'état de notre cœur, selon ce que nous sommes. Il veut consumer, par exemple, le péché d'orgueil. On a tous besoin que le feu vienne détruire cet orgueil qui continuellement essaye de revenir à la surface, n'est-ce pas vrai? Ça en doit tout le temps. On ne peut pas le tuer une fois et puis c'est terminé, ce serait bien si c'était comme ça. Mais l'orgueil est là dans notre cœur charnel et il faut que le Saint-Esprit contrôle tout cela et que nous soyons sous le contrôle de l'Esprit. Alors il faut veiller à ce que rien d'orgueilleux ne pénètre en nous. Et lorsqu'une pensée orgueilleuse vient, tout de suite la rejeter. Vous savez, souvent je l'ai dit, le mot orgueilleux, vous savez ce qu'il veut dire? Alors, le mot orgueilleux veut dire dans le texte grec se croire au-dessus des autres, se placer au-dessus des autres. C'est ça un orgueilleux. Et vous savez, l'orgueilleux, vous ne le voyez pas toujours souvent, il a une allure très humble, l'orgueilleux. Très humble. Regardez, oh là là, t'as vu ça comme il est humble? Oh, jamais j'ai eu un frère comme ça, incroyable. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et vous savez que derrière cette carapace-là, il peut y avoir le cœur le plus orgueilleux de quelqu'un qui se croit toujours supérieur aux autres. Il entend une expérience dans son cœur, vous savez ce qu'il pense? Mais moi, j'ai fait encore d'autres expériences plus grandes que toi. Il entend quelque chose et tout de suite, il rapporte tout ça à lui-même. Oui, ce que tu as, c'est bien. Hein. Vous dites quelque chose de formidable, par exemple, de bien, une bénédiction, mais lui, dans son cœur, c'est rien. À côté de moi, ce que j'ai vécu, c'est rien du tout. Vous dites autre chose. L'orgueilleux croit toujours être au-dessus de vous. Oui, tu dis que tu as une bonne église et tout ça, mais la mienne. J'ose pas te le dire, mais c'est bien au-dessus. C'est bien ce que tu as. Mais dans son cœur, il est toujours au-dessus. C'est ça l'orgueilleux. Toujours au-dessus. Ah, il ne le dit pas. Mais ça se voit dans son regard. Ça se voit. Et parfois, par son comportement. Le feu de l'esprit veut détruire cela en nous parce que Dieu ne peut pas habiter dans un cœur orgueilleux, n'est-ce pas vrai? Et là, nous devons tous faire attention, à commencer par les prédicateurs. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Rappelez-vous, ni à une église, ni à un mouvement. Combien de fois on l'a vu avec l'histoire dans l'histoire de l'église. Tous ceux qui, à un moment donné, se sont crus être supérieurs aux autres. Dans quelques années, ils disparaissaient. Et il n'y avait plus rien du tout. On ne joue pas avec ces choses. Le Saint-Esprit ne vient pas là pour nous glorifier, je le répète, n'est-ce pas vrai? Ou pour glorifier un homme ou un ministère. Il est formidable. Il n'y en a pas deux. Cette église, c'est les meilleurs. Le Saint-Esprit vient pour dire Jésus est le meilleur. Sa parole seule. C'est lui le plus grand. Et nous, nous sommes serviteurs des autres. Voilà ce que le feu nous rend, serviteur. Si tu as reçu quelque chose que l'autre n'a pas, tu dois devenir serviteur de cette personne et non pas dominateur de cette personne en disant « Ah, t'en es encore là, toi ? Ouh là là, t'as du chemin à faire. Hein ?» On parle comme si l'autre ne valait rien du tout, un petit nain. On le fait petit, 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 petit. Et nous, on paraît grand. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il remplit quelqu'un, ce n'est pas pour dominer l'autre, contrôler l'autre, c'est pour le servir. Naturellement, nous devons être serviteurs de tous, mais l'esclave de personne. Serviteur de tous, d'accord, mais l'esclave de personne, pas d'un homme, de qui que ce soit. Dieu nous a racheté un grand prix. Nous ne devons plus être esclaves des hommes. Serviteurs, mais pas esclaves. Mais esclaves de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Paul, quand il commence ses épîtres, s'écrit « Paul, esclave de Jésus-Christ. » Doulos, c'est le terme grec. Esclave d'amour. Esclave de Jésus, oui. C'est cet esclavage qui nous rend libre. Alléluia. C'est une contradiction. Être esclave de Jésus, c'est être vraiment libre. Pourquoi? Parce que Jésus est l'incarnation même de la liberté. Être esclave de Jésus, oui. Ça, c'est la liberté. Mais être serviteur des hommes et non pas esclave des hommes. Amen. Ainsi, veillons, le feu veut détruire tout cela parce que ça se cache dans notre cœur. Et dès que ça paraît, il faut mettre ça de côté. Car si nous n'en prenons pas soin, le Saint-Esprit, petit à petit, va s'éteindre. Seul le Seigneur doit être glorifié. Il y a aussi les racines d'amertume. Le feu veut détruire tout cela. Nous passons tous par des épreuves, n'est-ce pas vrai? Dans la famille, dans le travail, tous. Si nous écoutons l'histoire à chacun ici, tous, d'une manière ou d'une autre, il y a des larmes dans les familles, des souffrances, des tensions aussi. Il y a tant de choses. Mais il faut faire une chose. Il faut que le Saint-Esprit agisse de telle sorte que constamment le feu détruit cette amertume qui veut s'installer en nous. Car il n'y a rien de tel pour éteindre le feu de l'Esprit. N'est-ce pas? Il n'y a rien de tel que l'amertume. L'orgueil et l'amertume, c'est terrible. Nous devons veiller à cela. Et quand une pensée de ressentiment, d'amertume vient, purifions-nous de tout cela. Le feu de l'Esprit veut nous aider à être purifiés de cela. C'est très important. Le feu consume, détruit le mal. Laissons le Saint-Esprit faire cette œuvre. Car l'amertume peut nous détruire, n'est-ce pas? Ces racines, vous voyez, la Bible parle de racines d'amertume. Les choses là cachées que nous n'osons pas confesser ou pardonner. Faisons-le, mes amis. Et nous serons véritablement libres. Et le Saint-Esprit pourra agir encore plus librement dans nos vies. Amen. Une deuxième propriété du feu, le feu, non seulement il détruit, il consume, mais il purifie. N'est-ce pas vrai? Par le feu, on peut purifier tout un tas de choses. Donc le feu purifie. Le feu de Dieu est un feu qui vient purifier notre être. Ésaïe chapitre 6, vous savez, le fameux prophète Ésaïe, quand il était dans la gloire et la présence de Dieu, il s'est écrié « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. » Quand nous sommes vraiment dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit veut purifier nos lèvres. Nos lèvres. Car c'est bien souvent par nos lèvres que nous péchons, n'est-ce pas vrai? Chacun d'entre nous, et moi aussi, c'est bien souvent par nos lèvres. Et là, nous devons veiller et plus que veiller, n'est-ce pas vrai? Seigneur, purifie mes lèvres. Purifie, Seigneur, que vraiment mes lèvres te glorifient. Garde-moi de tout ce qui pourrait te déshonorer. Aide-moi, Seigneur, je m'appuie sur toi, mais que constamment nos lèvres soient purifiées et que ce soit comme un fleuve d'eau vive qui coule sur les autres. Amen. Le feu purifie. Seigneur, purifie mes lèvres. Afin que je puisse vraiment te ressembler. Alléluia. Merci Seigneur. Une troisième propriété du feu, le feu transforme des matériaux, n'est-ce pas? Par exemple l'acier. Pour transformer un acier, le changer, le modeler, il faut le feu. Il n'y a que le feu qui peut modeler cela, transformer quelque chose de dur. Le but du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous transformer à l'image du Seigneur. Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Nous sommes prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et pour cela, il doit nous transformer. Et nous devons considérer nos épreuves comme des tests, non pas comme des catastrophes. Là encore, beaucoup de chrétiens n'ont pas appris cette leçon. Quand des épreuves arrivent, ils se disent « c'est une catastrophe, ça, je ne peux pas, je n'en veux pas. » Alors que l'épreuve de Dieu est un test. Dieu est en train de te faire passer un test. Si tu passes l'examen, tu passeras dans l'école supérieure, dans la classe supérieure. Et c'est comme cela que tu grandiras dans les voies du Seigneur et que tu seras transformé à son image. C'est important. Le but de l'épreuve est de nous purifier, de nous fortifier et de nous transformer. et de nous équiper pour être utile. Comment considères-tu tes épreuves? Comme une catastrophe où tu te bloques et tu n'avances plus? Alors tu n'as pas discerné le but que Dieu voulait. Dieu permet cela dans ta vie pour que tu puisses. Il y a toujours une leçon à apprendre, d'une manière ou d'une autre. Sois humble, apprends ta leçon et le Seigneur te conduira plus loin. Mais ne t'entête pas, ne nous entêtons pas dans nos idées. L'épreuve est là pour nous purifier et pour nous transformer à l'image du Seigneur. Alors quand nous sommes dans le feu, je lisais le témoignage, celui qui met de l'or dans du feu. Comment il s'appelle celui qui en... L'orfèvre, oui, l'orfèvre, quand il met de l'or dans le feu, il paraît que l'or est vraiment purifié quand l'orfèvre voit son visage dans l'or. Quand il voit son visage, là, il sait qu'il n'y a plus de scorie, c'est fait. Et nous sommes un peu, hein, notre foi est précieuse comme l'or. Et cet or doit être purifié de ses scories. Et nous, les uns et les autres, nous devons être purifiés. Et c'est par le feu de l'épreuve que Dieu utilise qu'il nous purifie. Mais dans le feu de l'épreuve, il ne dit pas, c'est de la faute de lui, c'est de la faute d'elle. Arrête de jeter tout le temps la faute sur les autres, tu ne t'en sortiras pas. Dieu s'occupe de toi. Si les autres ont eu affaire d'une manière ou d'une autre, le Seigneur s'en occupe. Pour le moment, c'est toi qui es dans le feu. Et le Seigneur s'occupe de toi. Seigneur, ça brûle, mais c'est l'autre. T'occupe pas des autres. Moi, je m'en occupe. Je suis en train de travailler en toi. Apprends la leçon. Accepte ce que Dieu veut t'apprendre. Le feu transforme notre regard, nos paroles, nos gestes, notre comportement. Amen. Voilà ce que le feu veut faire. Et tout cela pour ressembler au Seigneur. Non pas pour ressembler à quelqu'un d'autre, mais pour ressembler au Seigneur. Alléluia. Et une quatrième pensée, le feu nous fait avancer. Le feu dans les machines, c'est vrai, les locomotives, tout ça, dans le temps, il fallait du feu, vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses, oui, la locomotive, oui, plutôt. Hein, quand il y avait le feu, c'est une puissance qui nous fait avancer. Alors le feu ne nous fait pas reculer, mais il nous fait avancer. Alors parfois ça va vite, parfois ça va lentement, mais la Bible dit souvent « marchez selon l'esprit » et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'est jamais dit de courir selon l'esprit, de marcher. C'est une œuvre lente, c'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Combien de fois des fois on entend là, priez pour moi, je voudrais que ça disparaisse. Mais c'est toute une œuvre de sanctification qui se fait dans notre vie. Et même une prière ne peut pas vous délivrer comme ça de certains défauts instantanément, de certains traits de caractère. C'est votre obéissance, votre soumission au Seigneur qui fera que le Saint-Esprit vous modèlera et vous transformera. Amen. On ne peut pas du jour au lendemain avoir des fruits de l'esprit. Un fruit, ça mûrit et ça prend du temps. Vous ne pouvez pas avoir un fruit du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Et nous, on veut les fruits tout de suite. Vous vous rappelez l'histoire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, d'un chrétien qui est allé voir son pasteur. Il a dit, priez pour moi pour que Dieu me donne la patience. Et qu'il me donne la patience et tout de suite. Oui, il voulait de la patience et tout de suite. C'est vrai, la contradiction. Il veut que le Seigneur lui donne la patience tout de suite. Ouais, il n'a rien compris. Il était impatient envers Dieu. Il voulait que Dieu agisse tout de suite. Et finalement, Dieu ne pouvait pas exaucer une telle prière. La Bible nous dit que ce sont les épreuves qui produisent la patience. C'est un autre jeune homme, je crois, qui est allé voir son pasteur, qui lui a dit, pasteur, priez pour moi, parce que je ne suis pas assez patient. Ah bon, d'accord. Pasteur ami a prié pour lui. Seigneur, je te demande de lui envoyer quelques épreuves. Ah, non, mais je ne vous ai pas demandé de me prier pour lui. Mais non. Mais dis-moi, la Bible dit que ce sont les épreuves, les tribulations qui produisent la patience. C'est dans Romains. Attendez, on va prendre au moins ce verset. Alors le jeune homme, il n'était pas content. Il a dit non, mais je, non, c'est pas ça que je voulais. Romains 5, il est dit donc là, bien plus, nous nous glorifions dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Donc la patience, l'affliction. Il a dit non, mais c'est pas ça que je demande. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu agit. Souvent dans nos prières, voyez-vous, il se passe quelque chose, on a l'impression que Dieu agit d'une manière contraire à ce qu'on a demandé. Les choses semblent s'empirer. Non, le Seigneur a exactement exaucé notre prière. Et c'est au travers de cette nouvelle situation qu'il veut nous apprendre à persévérer et à patienter. Amen. Et vous avez remarqué que les qualités d'un apôtre, quand Paul dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve et par des signes, des prodiges et des miracles. » Il n'a pas mis les miracles avant. Nous, aujourd'hui, on dirait « Celui-là, c'est un apôtre et tout, rien de les miracles et tout. » Non, non, ça c'est tout, il est humain. Encore une fois, on met l'homme en évidence. Mais Paul dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. » Parce qu'en général, ceux qui ont soi-disant trop de miracles et tout, quand quelque chose ne leur plaît pas, ces messieurs se fâchent bien vite. Arrête. Et on peut avoir des grands titres avec cela. Tais-toi. Tu n'as rien à me dire. Je suis apôtre. Ah oui, on peut avoir un titre enviable et avoir un caractère exécrable. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. N'est-ce pas merveilleux, ça? Nous voyons là l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Paul. Les signes et les miracles, c'était pour les autres, c'était pas pour que lui se vante, n'est-ce pas vrai? C'était quoi, les signes et les miracles? C'est pour que lui dise, je suis un gars qui fait des miracles. C'est la chair, tout ça. C'était pour les autres. Les dons de guérison, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous. Le don, c'est vous qui le recevez. La guérison est un don. Personne n'a le droit de se glorifier. Ni le prédicateur, ni celui qui reçoit, c'est un don. Et on n'a pas à nous vanter de quoi que ce soit. Mais les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Voilà pourquoi le Seigneur a pu utiliser Paul. Une patience à toute épreuve. Combien nous en avons besoin, n'est-ce pas? Et réalisons que c'est l'épreuve qui nous rendra patients. On est parfois trop pressés, on est des chrétiens presse-boutons dans ce 20e siècle. Et quand on prie, il faut toujours, si ça ne se passe pas tout de suite, et on n'est pas content. Oh, il n'a pas de foi, il n'a pas de puissance, on accuse même certains prédicateurs. Et même certains prédicateurs, pour avoir plus de puissance, ils pratiquent des choses qui ne sont pas bien, pour qu'il y ait des manifestations immédiates. Mais qui ne viennent plus de Dieu. Ils sont trop pressés. Ils veulent montrer qui ils sont. Et finalement, ils sont influencés par d'autres esprits sans qu'ils s'en rendent compte. Tout cela parce que d'une manière directe ou indirecte, on essaye de manipuler Dieu et on n'arrivera jamais. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Jamais. Ce n'est pas Dieu qui est à notre service, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Amen. C'est lui le maître, et nous ses serviteurs. Amen. Amen. Si nous avons compris cela, nous irons loin avec le Seigneur. Une patience à toute épreuve. Et le Seigneur sait par quel chemin nous devons passer, les uns ou les autres. Vous voulez que Dieu vous utilise? Certainement, le Seigneur veut le faire. Et c'est par cette patience à toute épreuve que vous montrerez une œuvre profonde du Saint-Esprit en vous. Amen. Parce que même si quelqu'un manifeste des miracles, mais dont le caractère est exécrable, même ces miracles ne valent plus rien du tout. Plus rien. Ce qu'on veut voir, et ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que l'on voit le Seigneur. Voilà le fruit que Dieu désire. Laissons-le faire. et utilisons nos épreuves pour grandir, pour être purifiés, pour marcher plus près du Seigneur. Ne gaspillons pas nos épreuves. Utilisons-les pour nous rapprocher du Seigneur et pour être continuellement transformés à son image. Et je termine par une dernière pensée. Une cinquième propriété du feu, le feu a tendance à s'éteindre. C'est vrai ça aussi. Le feu, quand vous faites du feu, si vous ne mettez pas du bois ou si vous n'alimentez pas, qu'est-ce qui se passe? Plus rien. Donc le feu a tendance à s'éteindre. Quand vous alimentez, ça se propage, n'est-ce pas vrai? C'est une force de propagation, c'est vrai. Mais quand il n'y a plus rien, ça s'éteint. Ça ne reste pas tout seul, comme ça. Le feu ne reste pas tout seul, comme ça. Sans qu'on fasse rien. Il faut alimenter. La tendance du feu est de s'éteindre. Voilà pourquoi nous devons veiller. Alors c'est la cinquième propriété. Le feu a tendance à s'éteindre. Nous devons donc veiller à ce feu-là en nous. Et comment le garder? Juste trois pensées, trois choses. Dans Éphésiens 5, 18, il y a là deux moyens pour rester rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, il est dit, soyez continuellement, soyez rempli du Saint-Esprit, 5, verset 18, soyez, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. Et le texte grec veut dire ici, soyez continuellement rempli du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur veut nous montrer là comment rester dans l'Esprit, comment garder ce feu. Eh bien, il y a deux solutions en tout cas ici. Comment il faut faire? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La louange sincère de tout notre cœur sera un moyen pour rester rempli de l'Esprit et garder le feu en nous. Amen. C'est pour ça que, voyez-vous, trois jours de louange profonde, sincère, hein, vous repartez, vous avez l'impression d'être rempli, c'est pas vrai? L'impression que c'est rempli et que ça déborde, voyez, comme un débordement. C'est cela, mais c'est ces trois jours de louange. Il n'y a pas d'autre mystère. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Alors, maintenons cet esprit de louange et nous resterons remplis du Saint-Esprit. Ne négligeons pas cela. Maintenons cet esprit. Ensuite, un peu plus loin, il est dit, de tout votre cœur les louanges, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. La deuxième chose qui vous permettra, qui nous permettra de rester remplis du Saint-Esprit, c'est de rendre grâce en toute chose. C'est-à-dire d'avoir un cœur reconnaissant, de ne pas être ingrat. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu fait quelque chose, sachons dire merci. On est dans une société ingrate qui revendique tout le temps, c'est pas vrai? Tout le temps. Bon, il y a des revendications qui peuvent être justes, c'est pas ça le problème. Mais même ceux qui n'en ont pas besoin, ils revendiquent encore, n'est-ce pas vrai? Ça montre bien que malgré tout ce qu'on peut avoir, on est encore insatisfait. Et nous les chrétiens, nous devons faire attention de ne pas attraper le virus de ce monde. Et ne pas tomber dans l'ingratitude. Nous connaissons le Seigneur. Il est notre Père. Il est notre berger. Il ne nous abandonnera jamais. Il a tant fait dans ta vie. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Un chrétien reconnaissant est toujours un chrétien victorieux. Un chrétien ingrat sera toujours un chrétien dans la défaite. Sois reconnaissant. Il y a deux façons d'accepter les choses qui nous arrivent. Soit vous acceptez les choses comme un dû. Ah oui, c'est tout à fait normal. Vous faites quelque chose à quelqu'un. Normal. J'attendais ça depuis longtemps d'abord. T'es bien arrivé en retard. Hein? T'es arrivé un peu en retard. Quand vous faites certaines choses à certains, c'est comme un dû. Ça vous passe pas cette impression? Faites quelque chose à un frère ou à un autre. Ouais. D'accord. Un dû. Mais à d'autres, vous faites quelque chose. Merci. Un sincère merci. Vous voyez tout de suite un cœur reconnaissant. La gratitude. Tandis que l'autre, rien du tout. Bon, il était temps que tu viennes. Hein. Il était temps. Et vous croyez que ça marche? Ouais, on perd tout. Tandis que l'autre, pour la plus petite chose, même pour le verre d'eau, merci. Merci. Et celui qui sait dire merci pour tout et pour rien celui-là sera continuellement rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Soyons pleins de gratitude, soyons pleins de reconnaissance. Dans ce monde ingrat, soyons pleins de gratitude. Pour terminer, la troisième, un autre moyen que les apôtres ont utilisé pour être remplis du Saint-Esprit, pour être continuellement, Acte 4:31, il est dit, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Pourtant, il était déjà avancé dans Acte 4, ça c'est pas Acte 2. Dans Acte 2, ils avaient déjà été baptisés dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais là, on voit qu'ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas le tout d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit une fois, mais il faut rester rempli après. On peut avoir, faire cette expérience glorieuse et ensuite tout perdre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est malheureusement possible. Mais là, regardez comment ils sont restés remplis. Eh bien, après, il y a toute la prière de l'Église primitive ici, quand ils ont été persécutés, rejetés par les autorités, tout ça, alors ils se sont mis à prier. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La prière. La prière, il n'y a rien de tel pour nous garder dans la présence du Seigneur. Et aussi pour venir déposer nos fardeaux. Ils étaient persécutés là. Ils sont venus, rejetés par les autorités, par tous. Eh bien, ils sont venus dans la prière déposer leurs fardeaux. Celui qui prie ne reculera jamais. Celui qui avance à genoux ne reculera jamais. Amen. La prière est une source de renouvellement extraordinaire. Nous en avons tous besoin. Déposons nos fardeaux comme ils l'ont fait et le Seigneur nous renouvellera. Des moments de prière, oui, sont nécessaires pour être renouvelés. Et Dieu permet des rencontres comme celle-ci pour être renouvelé, n'est-ce pas vrai? Ça aussi, c'est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il nous faut en profiter. Souvent, à la maison ou autre, on n'a pas toujours l'occasion et tout, c'est vrai. Ça dépend des circonstances, on est isolé et tout. Le Seigneur comprend tout cela. Et il permet des occasions où nous prenons du temps pour être à part. Et nous tenir dans sa présence et chercher sa face. Combien nous en avons besoin aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Plus que jamais, plus que jamais. Ainsi, voilà comment nous pouvons rester, garder le feu de l'Esprit. Le feu a tendance à s'éteindre. Nous devons veiller à ce qu'il ne s'éteigne pas, mais nous devons l'alimenter par nos louanges, nos prières et notre esprit de gratitude et de reconnaissance. C'est ainsi que nous resterons remplis du Saint-Esprit, et non seulement remplis, mais nous déborderons sur les autres. Car le but de la plénitude de l'Esprit, c'est d'être une bénédiction aux autres, d'être comme un fleuve qui coule et qui rafraîchit les autres. Alléluia. Si tu veux être une bénédiction pour les autres, Dieu te remplira, Dieu te renouvellera, Dieu te fortifiera. Mais si tu désires tout pour toi-même, pour te faire un nom, un ministère, pour que les gens aient les regards sur toi, tu te trompes de chemin, tu vas sur un chemin de perdition. Si tu demandes de grandes choses pour glorifier le Seigneur le fait uniquement pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Jamais pour te vanter ou te mettre à la première place. Que le Seigneur nous aide et nous donne de rester remplis du Saint-Esprit en gardant le feu de Dieu en nous. Amen. Amen. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Alléluia. Seigneur.